Vous écoutez
RMC.
RMC, Breaking Foot,
l'info du jour.
Auparavant, tout de même, les gars, sur RMC, j'ai envie de vous entendre, Mohamed et Pierre, sur l'info qui vient de tomber. Hein, elle date de quelques minutes. Blaise Matuidi, contrôlé positif à ce fameux coronavirus. La Juventus informe qu'il est à l'isolement volontaire à domicile. Et ce, depuis mercredi dernier. Hein, on signale également qu'il est asymptomatique. Donc, ce n'est pas forcément grave. Il va bien, Blaise Matuidi. On signale également que c'est le deuxième joueur de la Juventus de Turin qui contracte le Covid-19 après le défenseur italien Daniele Rugani. Momo, Pierre, vos réactions par rapport à cette info?
Ben on va dire que déjà je l'avais eu il y a quelques jours, Blaise Matuidi, je l'avais eu par message. Il vivait la situation avec ses proches, avec sa famille à la maison, confiné comme ces millions d'Italiens, une situation difficile pour lui, mais ça avait l'air d'aller plutôt bien. Là, se communiquer, on va dire au départ peut-être inquiétant, mais nous rassure très très vite avec la Juve et qui explique que Blaise Matuidi est asymptomatique, en clair qu'il n'a pas de symptômes, qu'il va bien, qu'il ne ressent pas de douleur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir le coronavirus et le soigner sans même le savoir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour le champion du monde qui reviendra sur les terrains, Pierre, dès que cette crise sanitaire sera passée.
Oui, voilà, il n'y a pas besoin de trop en dire, je pense. Une occasion de saluer et de remercier le travail que font les équipes médicales. Alors quand tu as les symptômes, mais également en amont et en prévention, quand tu es asymptomatique comme Blaise Matuidi, voilà, on lui souhaite tout le meilleur et que ça passe très très vite pour lui.
Évidemment,
on peut le dire. On peut le dire, Pierre, t'as raison de le signaler. Il est 20h05, il y a 6 minutes, des centaines de milliers de Français se sont rendus à leur fenêtre pour applaudir le personnel soignant. Je recevais un message sur les réseaux sociaux d'un infirmier qui travaillait à la Pitié-Salpêtrière, Mathieu. Je voulais le saluer comme saluer tous les soignants et les soignantes qui font un travail exceptionnel en France pour sauver des vies aujourd'hui et pour sauver toutes ces personnes qui sont en réanimation. Voilà, donc merci à vous et c'est vraiment important de le rappeler. Merci de votre travail, c'est grâce à vous si la situation n'empire pas et on espère de tout cœur que ça va se rétablir assez rapidement.
Effectivement, et RMC est là pour vous puisqu'on poursuit nos programme. Vous avez donc ce Breaking Foot comme à l'habitude du lundi au jeudi. Aujourd'hui, on est là de 20h à 21h et on va donc parler de l'info de la journée. Cette journée historique, les gars, pour le foot européen. L'UEFA a donc officialisé en début d'après-midi le report de l'Euro 2020. On rappelle que la compétition devait se dérouler dans 12 villes à travers l'Europe entre le 12 juin et le 12 juillet. Une décision qui a été prise après une réunion tenue entre les différentes ligues et les fédérations en visioconférence. Ça s'est passé à Nyon, en Suisse. L'idée est simple, en fait, Mohamed, reporter l'Euro d'un an pour permettre aux championnats nationaux et aux Coupes d'Europe d'aller à leur terme.
Oui, c'est ça, Benoît. C'était l'ambition d'Alexander Seferin, le président de l'UEFA. Il a entendu tous les présidents de ligue, hein. Il a entendu aussi tous les dirigeants des plus grands clubs européens et des présidents des très grands clubs qui voulaient terminer ces championnats, à part un président assez important en France, Jean-Michel Aulas, qui avait évoqué cette idée. Dans tous les grands clubs européens, on avait cette volonté de terminer les championnats nationaux et surtout de terminer cette Champions League et cette Ligue Europa. Donc Alexander Seferin n'avait pas d'autre choix que de reporter l'Euro. Ça aura lieu l'été prochain, à partir du 11 juin 2021. C'était l'objectif, surtout de ne pas prendre de risques pour éviter d'avoir des trous dans ces championnats nationaux. Pierre, on va dire que c'est pas beau ce que je veux dire, c'est pas une expression française, on va dire, mais c'est la solution qui est sans doute la moins mauvaise ou, comme diraient certains, la moins pire. Voilà.
Oui, c'était pas une solution, c'était la seule chose à faire. Voilà, t'avais pas de choix plutôt, voilà, à faire. C'était le seul moyen de minimiser les risques d'annulation d'une compétition comme ça. Et puis t'aurais jamais pu la faire de toute manière avec ce qu'il se passe actuellement, la durée pour laquelle tout ça va s'étaler, et t'aurais pas le temps de programmer un euro. Donc c'était même pas un choix, c'était une évidence et il fallait le faire.
On peut préciser quelques infos. Effectivement, Mohamed, on a les nouvelles dates. Hein, donc, ce sera du 11 juin au 11 juillet 2021. On précise que les barrages qui étaient prévus en mars, finalement, devraient se disputer au mois de juin. On précise également à tous ceux qui auraient déjà acheté des billets que l'UEFA s'est voulu rassurante et que les détenteurs de billets auront la possibilité d'obtenir un remboursement s'ils veulent se faire rembourser ou si,
oui,
s'ils peuvent
tout
tenir
sera remboursé. Eh
bien, ils pourront tout de même aller assister aux différentes rencontres. Hein.
Tout sera remboursé par l'UEFA. Il y aura pas de souci sur ce point-là. Et d'ailleurs, même les présidents de fédération, hein, on va saluer aussi le travail de Noël Le Graët, qui a tout de suite pris la décision, le président de la Fédération française de football, d'arrêter le monde du football amateur et d'arrêter toutes les fédérations et les districts, parce que ça devenait beaucoup trop dangereux. Tous les présidents de fédération et tous les entraîneurs des grandes sélections l'avaient dit. C'était mieux de reporter cet euro. La place n'est pas au football aujourd'hui. Et Mancini, le sélectionneur italien, l'a dit. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir en Italie. On ne voyait pas comment le football pouvait continuer, surtout cet euro où il faudra qui arrive vite cet été, où il faudra se relever. Donc c'est la meilleure des décisions que le football a pris. Et surtout, on espère vite que cette situation va s'arrêter, arrêter d'empirer aussi pour boucler aussi les championnats nationaux. Et là, il y a un vrai thème. Là, il y a un vrai thème sur ce sujet.
Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, notamment durant le Halo Breaking, hein, qui sera consacré évidemment au clash entre Héro et Olas. Mais on parlera également de la suite à donner à cette saison de Ligue 1. Il est 20h10, vous écoutez RMC, on est dans Breaking Foot et on accueille Damien qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien.
Salut Damien.
Bonsoir à tous.
Bon, salut Damien.
Damien, toi tu rejoins l'avis général. Pour toi, la santé passe avant tout et il fallait, quoi qu'il arrive, reporter cet Euro 2020.
Hein. La santé pour moi c'est une priorité. Le sport, certes, c'est ce qui rythme notre quotidien. C'est un peu comme une religion, un phénomène social qui permet d'oublier les problèmes, voilà, qui permet aussi de rassembler. Et pour moi, voilà, la santé c'est une priorité. C'était une évidence, ces décisions prises par l'UEFA, notamment la Copa América également, la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Euro 2020, du coup, qui sont reportés jusqu'à nouvel ordre, et puis l'Euro 2020 reporté à l'année prochaine. Donc pour moi, voilà, il faut rester soudé, il faut prendre soin de nos familles, prendre soin de tout le monde. Certes, voilà, le foot, ça va nous manquer, mais si on veut en sortir gagnant, il faut tout écouter du gouvernement. Les précautions, il faut les prendre. Et pour moi, voilà, même si le foot, c'est, comme je le dis, c'est un peu comme une religion pour tous les amoureux du sport, généralement également. Voilà, il faut prendre des précautions. Et puis, franchement, félicitations à vous de continuer les émissions, parce que il faut continuer ce droit de nous informer. Et merci à vous, en tout cas, de continuer vos émissions et à nous informer de la meilleure des manières. Voilà.
Ouais, Damien, alors, merci pour tes mots, mais on n'a aucun mérite, hein, par rapport à ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou ceux qui, voilà, aident dans les EHPAD ou ceux qui se déplacent. Vous voyez, j'habite juste à côté d'un EHPAD. Il y a des gens qui se déplacent aujourd'hui pour aller soigner des personnes âgées. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Damien, d'être venu dans Breaking Foot. Merci pour ton message.
Et on peut poursuivre également sur l'aspect sportif, les gars, parce qu'on parle de l'Euro 2020. Je voulais juste poser une question à Pierre, savoir ce que tu penses du timing. Là, on est à 3 mois du début de la compétition. Tu penses que le timing est plutôt bon? C'est-à-dire qu'on n'était pas encore vraiment tourné vers cet Euro. On pensait encore à nos championnats nationaux et à nos Coupes d'Europe.
Ouais, tu veux dire quoi? Qu'on aurait peut-être pu attendre, c'est ça, avant de se prononcer?
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus à 15 jours de la compétition. C'est pas non plus une déception immense que de voir l'Euro reporté d'un an.
J'ai envie de te dire que de toute manière, par rapport, devant la situation actuelle, l'Euro aurait été dans 15 jours, ça aurait été pareil. Il aurait fallu prendre la même décision de le reporter, de surtout pas le jouer, peu importe les conséquences économiques pour l'UEFA, pour certains pays. On l'a dit, l'auditeur Thomas, je crois, vient de nous le dire,
Damien.
Aussi. Et Damien, pardon. C'est évident pour tout le monde, la santé avant tout. Donc, je veux dire que le timing là-dedans, il est secondaire, ouais. Peu importe. Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait gérable à 3 mois d'une compétition de tout annuler.
Je voulais juste vous donner d'ailleurs le communiqué qui a été publié par Didier Deschamps. Je vais vous lire ses propos. L'UEFA a décidé de reporter l'Euro 2020 d'une année. C'est une sage décision au regard des ravages que le Covid-19 est en train de causer sur l'ensemble de la planète. Pour nous tous, la priorité est ailleurs. Elle rejoint tout à fait tout ce qu'on dit depuis le début de Breaking Foot. Pensons à ceux qui souffrent et à tous ceux qui malheureusement risquent de souffrir dans les jours ou les semaines qui viennent. Il convient plus que jamais d'avoir le sens des priorités, des responsabilités, du civisme. Le seul match à gagner, c'est celui que nous livrons actuellement contre le coronavirus. C'est vraiment ça le message qu'il faut envoyer, les gars, Mohamed et Pierre, ce soir.
Oui,
bien sûr.
Oui, mais parce que le sélectionneur national Didier Deschamps a bien conscience que la situation, elle est terrible, elle est critique. Et d'ailleurs, pour avoir échangé avec plusieurs joueurs de l'équipe de France, il n'y en a aucun qui pense à sa situation, il n'y en a aucun qui pense à disputer l'Euro. Parce que Pierre, on le sait, c'est l'une des plus belles compétitions comme la Coupe du Monde dans une carrière de joueur. Et pourtant, ces joueurs-là ont pris conscience, parce qu'on dit souvent, oui, c'est des jeunes joueurs, etc. Mais ces joueurs-là ont conscience actuellement qu'on traverse une crise sans précédent. Et ça, c'est la bonne nouvelle.
Ah ouais, non, mais il y a pas d'âge là. Ceux qui pensent qu'il y a un âge pour réaliser ce qui se passe en ce moment, ils sont profondément débiles. Tout le monde en a conscience. Même on a des enfants, etc. Quand à longueur de journée, tu entends ce qui se passe, quand tu te retrouves confiné, à n'importe quel âge, tu sais qu'il se passe quelque chose de très particulier. Voilà, pour pas utiliser d'autres mots. Donc, finalement, il n'y a pas trop à réfléchir. Le bon sens l'emporte. Sur tout le reste. Que ce soit des compétitions de football ou autre chose. Et qui plus est, parce que c'est peut-être la plus belle compétition de football, autant la faire dans de bonnes conditions et pas dans des conditions particulières comme ça.
Excuse-moi, Pierron. Oui, on précise juste que la Copa América a également été reportée aux mêmes dates d'ailleurs que l'Euro 2021. Ça sera les mêmes dates, donc du 11 juin au 11 juillet. Il y a une autre interrogation qui a été soulevée, entre guillemets, Mohamed, c'est donc la suite à donner à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa. Pour l'instant, la parole officielle de l'UEFA, c'est qu'on suspend les compétitions. On attend de voir un petit peu l'évolution de la crise sanitaire en Europe. On ne pouvait pas continuer ces compétitions et on attend de voir avant de décider quelque chose.
Oui, ça c'est la chose la plus importante, parce qu'on sait le lobby aussi des très grands clubs européens qui sont encore qualifiés dans cette compétition. Je pense à on verra, il y aura le match retour entre Lyon et la Juve, il y a le PSG, il y a le Real Madrid ou Manchester City, il y a l'Atlético Madrid, il y a encore de très grands clubs dans cette compétition, cette saison, et aucun ne veut d'une saison blanche. Ça, c'est une certitude. Tout le monde veut jouer cette compétition, donc il y a plusieurs formats qui ont été évoqués aujourd'hui au sein du conseil de l'UEFA. Il y a un gros format sur une idée d'un Final 8, donc une finale à 8, qui pourrait arriver et se transformer en Final 4, en finale à 4, avec un match aller-retour et une grosse finale sur le lieu de la finale qui aura lieu à Istanbul, en Turquie. Voilà, l'idée c'est, quoi qu'il arrive, de trouver des dates. Les dates qui vont avoir lieu avant le 30 juin, d'ailleurs, il y a déjà des questions sur les réseaux sociaux, je pense notamment à quoi reste ma jambe, pas de pression, qui me demande sur Twitter, existe-t-il une possibilité que la Ligue 1 continue après le 30 juin? Pour la Ligue 1 et pour la Champions League ou la Ligue Europa, il y a une possibilité que le football continue après le 30 juin. Philippe Pia l'a dit, il y a la possibilité de faire des avenants, par exemple dans le monde du football, de continuer un peu la saison, mais c'est pas la volonté. La volonté de l'UEFA, de la Champions League, de la Ligue Europa et de la Ligue 1, c'est de terminer le 30 juin. C'est pour ça que la date du 27 juin est sortie un petit peu dans les médias, parce que c'est la dernière grosse date avant le samedi. Aujourd'hui, le message qui est sorti de l'UEFA, Pierre, c'est que les retours que l'UEFA a, c'est que la crise va continuer avec un pic qui devrait avoir lieu début avril, donc protégez-vous, restez bien chez vous, confinez-vous. Le président de la République Emmanuel Macron a raison. Il faut rester à la maison parce que le pic est attendu début avril, avant que ça redescende et qu'on puisse rêver de rejouer. Allez, mi-mai, fin mai pour le football, et qu'on puisse avoir tout le mois de juin afin de rattraper toutes les situations. Ça, Pierre, ça serait le scénario parfait, j'ai envie de dire.
Oui, ce serait le scénario idéal dans cette situation catastrophique. Voilà, il y en a pas beaucoup d'autres, de toute manière, de scénarios. Si ce n'est que si tu peux pas faire ça, ça veut dire que ça aura encore plus d'ampleur, que tu n'auras pas le temps de finir les compétitions, et alors là, il y aurait encore des décisions plus gênantes à prendre. Donc oui, l'idéal, c'est ce que tu viens de le protocole que tu viens de donner, c'est-à-dire une reprise peut-être courant mai, une compétition qui se finirait avant le 30 juin avec des matchs très condensés sur un mois et demi, un mois.
On va accueillir Lionel au 32-16 d'ici quelques secondes. Juste une question, parce que ça va dans le sens de ce que va nous dire Lionel. Pierre, à ton avis, il faut prioriser quelle compétition? Les championnats nationaux, la Ligue 1, la Ligue 2 ou alors les Coupes d'Europe?
Moi, je pense que tu peux pas. Tu dois finir les compétitions qui sont en cours, donc toutes. Les compétitions nationales et les coupes d'Europe. Tu dois essayer de caser ça. Alors effectivement, étaler sur quelques semaines pour les championnats nationaux et peut-être pour les coupes européennes, s'arranger pour qu'il y ait un final 8. On parle beaucoup de ça et ça me semble être la solution la plus appropriée pour condenser trois matchs sur une petite semaine, et encore peut-être même pas jouer tous les deux jours. Alors c'est des matchs qui normalement nécessitent du repos pour avoir les plus beaux matchs de la saison, et là forcément les acteurs seront forcément très très diminués parce qu'ils auront eu une période d'arrêt énorme, une période de préparation pour reprendre qui aura été trop courte. Tu auras forcément joué dans tes championnats nationaux beaucoup de matchs si possible. Et tu vas te retrouver à jouer les tours finaux d'Europa League et de Champions League sur une très courte semaine. Bon, le spectacle sera peut-être pas le meilleur, mais on pourra dire que tout le monde a œuvré dans le même sens pour finir les compétitions, et ce sera peut-être l'intérêt, le principal intérêt, ouais.
Benoît, tiens, cette information avant qu'on prenne Lionel au 32-16. On est dans un scénario où il nous faut 23 dates. Au maximum, 23 dates. Je peux te les donner. Les 10 dernières journées de Ligue 1, Ligue 2. Donc, ça fait 10 dates. Les matchs en retard, les deux finales Coupe de la Ligue, Coupe de France, les play-offs de la Ligue 2, les deux dates, les barrages Ligue 1, Ligue 2 qui sont deux dates aussi, et la fin de Ligue des Champions. Donc, au minimum 17 dates. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 23 dates avec un huitième, deux quarts, deux demi et une finale. Mais c'est pas du tout la volonté de l'UEFA et de la Ligue 1 pour l'instant. Donc, il y a aussi cette possibilité, c'est que pour la première fois, et ça a été très rare, bien que un quart de finale, par exemple, de Champions League se joue le même soir qu'une journée de Ligue 1, on verra ça. Voilà, dans toute l'Europe, pendant un mois et demi, on va avoir du foot partout, quoi.
Ouais. Et Momo, en allant dans le même sens, je pense que les équipes qui vont être concernées par les matchs de barrage en Ligue 2 ou en Ligue 1 seront pas les équipes qui sont en finale des coupes.
On peut
tout à fait imaginer que pour une fois, on va s'adapter et qu'on jouera une finale de coupe nationale en même temps qu'un match de barrage. C'est pas grave.
Les Anglais se posent pas de questions. Hein. Quand faut mettre un match en retard de championnat un soir de Ligue des Champions, ça leur pose pas de problème.
Hein. Bien sûr.
Ils devaient jouer des matchs.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que franchement, c'est au-delà de, on va accueillir Lionel qui nous a appelé au 32-16 pour réagir, mais on va revenir sur la polémique née de l'échange de Jean-Michel Aulas et Jack Herrero. Mais au-delà des mots de Jean-Michel Aulas, tous les plus grands dirigeants du football européen veulent finir les championnats pour une question aussi de recours. Imaginez qu'on termine pas les championnats, mais que vont dire tous les clubs de Ligue 2 qui prétendent à la montée? C'est impossible de ne pas quasiment impossible de ne pas finir le championnat. On ne peut pas avoir de saison blanche et on va prioriser ça et on va prier, on va espérer que la Ligue 1, que la crise s'arrête afin de retrouver un mois de compétition. Et si on a un mois de compétition, tout s'arrangera.
Allez, 20h21 sur RMC, vous écoutez Breaking Foot. Lionel est donc avec nous au 32-16. Salut Lionel.
Salut, les gars.
On est très heureux de t'avoir, Lionel.
On est heureux de l'avoir parce qu'il nous appelle des Bouches-du-Rhône et du coup, il est supporter parisien. Et lui, il veut prioriser la Ligue des Champions par rapport au championnat. C'est un peu ça, Lionel?
Non, j'ai pas dit prioriser. C'est juste qu'en tant que supporter parisien, il faudrait changer. Il faut qu'on change de nom, il faut qu'on change tout parce qu'on a la poisse. Honnêtement, on est poisseux. Mais en même temps, moi, d'abord, avant de parler de foot, je voudrais faire un big up à tous nos hôpitaux, à tous ceux qui font qu'en ce moment on peut compter sur eux et qu'on puisse se sortir de cette crise sanitaire qui fait que voilà, le foot est secondaire, les décisions qui ont été prises aujourd'hui sont les bonnes concernant l'euro. Après, c'est secondaire. Moi, je parle en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Ça fait 3 ans que je suis en galère de Coupe d'Europe. Je morfonds pour ce qualif en quart de finale. Là, on y arrive et on nous parle de pas l'annuler, mais de la suspendre. Donc oui, effectivement, en tant que supporter, on aimerait que la Ligue des Champions aille au bout. Maintenant, si ça se termine dans 3-4 mois et qu'on peut pas reprendre et que c'est impossible de trouver des dates, on fera avec, on passera une autre saison. Et c'est pas grave, c'est pas le problème. Le problème en ce moment, il est, comme vous savez tous, dans la maladie. Et il faut qu'on s'en sorte. Maintenant, si on doit parler foot, puisqu'on est dans votre émission, moi, je considère que le championnat, il est fait à 70%. Donc, pourquoi pas faire des barrages comme au rugby, en haut et en bas? Moi, en tant que supporter parisien, ça me dérangerait pas de, pour un champion de France, de faire des barrages des 6 premiers et les 6 derniers qui font, parce qu'il faut pas oublier les relégations, les Ligue 2, on parle de tout pour éviter qu'il y ait trop de dates. Si on se mettait à commencer au mois de mai, parce que je pense qu'on commencera pas au mois d'avril, ça c'est utopique de penser qu'on va commencer au mois d'avril. Donc, voilà, trouver des solutions pour que tout taille au bout, mais en même temps, je pense pas qu'on pourra faire 10 journées de championnat, 23 dates. Vous vous rendez compte que ça fait 23 dates, il faudrait qu'on aille jusqu'à fin août, commencer la saison d'après au mois de septembre, éviter les vacances. Les joueurs sont pas des machines non plus, ils sont comme nous, ils sont humains, la crise.
Si on redémarre mi-mai, ça passe. Voilà.
Si ça démarre mi-mai, on peut finir, on jouera tous les 3 jours. Mais après, je vous entends parler, il faut qu'ils se remettent en forme. C'est tout le monde pareil, donc tout le monde ne sera pas en forme, donc les matchs ne seront pas...
Tout le monde sera
au même niveau. C'est-à-dire si les matchs sont pourris au début, parce que les mecs seront tous pourris, ça ne sera pas une équipe qui sera au top, et les 18 autres qui seront mal logés, comme quand on joue tous les 3 jours.
Je suis très heureux de t'entendre dire ça, parce que quand moi je l'ai dit, j'étais dans l'after, je crois, il y a 2 soirs, écoute tous les commentaires, alors c'est Twitter, hein, on sait ce que représente Twitter, mais tous les commentaires en dessous sont les mêmes, c'est que de toute manière, comme la Ligue 1 est pourrie, ça continuera, ça changera pas. Voilà. Donc je suis content de te l'entendre dire, et effectivement, il faudra y penser à ce moment-là, et il faudra pas demander qu'effectivement l'intensité, etc., soit au même niveau que d'habitude. C'est effectivement, ça sera effectivement le cas.
Ouais. Merci Lionel d'avoir été avec nous.
Merci Lionel. Merci à toi.
Merci Lionel.
À bientôt sur RMC. Il est 20h24 et on accueille notre invité. C'est l'entraîneur du Stade Brestois qui est avec nous, Olivier Dalloglio.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Olivier.
Olivier, on imagine que vous avez suivi la décision de l'UEFA de reporter l'Euro. Est-ce que c'est une bonne décision pour vous, ce report de l'Euro?
Ah, on a perdu, on a eu un petit problème de connexion. Avec
sans doute que les lignes qui sont saturées depuis 24-48 heures touchent aussi Brest et Olivier Dalloglio, mais je suis sûr que notre producteur Dimi Brown va vite retrouver son numéro pour l'appeler. Ouais. Non, juste avant qu'on retrouve Olivier Dalloglio, à moins qu'il soit là, Benoît.
Non,
il est
pas encore là.
Pas encore, Pierre, il a pas tort, notre auditeur Lionel, c'est que on parle de la Ligue 1 qui va revenir, on espère, mi-mai, début mai ou fin mai, mais il faudra aussi compter sur 3-4 journées qui ressembleront aux journées de début août.
Ben ouais. Mais quasiment toute la fin de championnat, Momo, tu verras, ce sera pas que pour 3-4 journées, malheureusement. Tu peux pas arrêter une saison comme ça pendant deux mois et demi, demander à des athlètes de haut niveau, peu importe ce qu'en pensent beaucoup de gens, ce sont des athlètes de haut niveau qui jouent des matchs de haut niveau. Et particulièrement en Ligue 1, moi j'insiste, ceux qui ne l'aiment pas, tant pis, moi je l'aime bien notre Ligue 1. Et tu pourras pas demander à ces sportifs de haut niveau à un moment donné d'avoir la même intensité déjà physique et même techniquement et etc. de retrouver tout de suite un football, des repères, etc. Ça va être très compliqué. Et ce sera de toute manière très très particulier de rejouer une quinzaine de matchs ou ouais, pour certains, une quinzaine de matchs en un mois et demi. Ça va être très, 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 très dur d'avoir des vrais matchs de haut niveau. Ça sera très compliqué.
On a retrouvé, Pierrot, la ligne avec Brest, avec Olivier Dalloglio, entraîneur du Stade Brestois. Bonsoir, Olivier.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir, Olivier.
Olivier, juste avant votre arrivée, on évoquait le report de l'Euro officiel aujourd'hui. C'est la meilleure décision qui pouvait être prise?
Oui, je pense que c'est une bonne décision parce que ça, effectivement, ça va à libérer des dates. Alors on ne sait pas du tout ce qui va se passer par la suite, mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup de compétitions maintenant du football qui sont annulées. J'ai vu Roland Garros aussi.
On a quelques problèmes de liaison avec Olivier Dalloglio. Il signalait d'ailleurs que Roland Garros avait été reporté au mois de septembre. Effectivement, c'est l'autre info sport de cet après-midi. Roland Garros ne se disputera pas fin mai, début juin et sera bien décalé au mois de septembre. On va retrouver Olivier Dalloglio.
On va retester dernière fois peut-être la ligne avec Olivier Dalloglio.
Ouais, il est là, Olivier. Vous nous entendez, Olivier?
Oui, je suis là.
Parfait.
Je suis là.
Ah, on vous a retrouvé, Olivier. Ouais. La ligne n'est pas très bonne, mais on a compris votre première réponse, Olivier. Est-ce que juste vous, en tant qu'entraîneur du Stade Brestois, tout va bien? Vous êtes 14e. Est-ce que vous êtes quand même rassuré sur les dates de calendrier qui pourraient se libérer? On imagine que vous avez envie, vous, si les conditions et le climat sanitaire le permet, de boucler cette saison.
Oui, sûr. Oui, je pense que c'est la priorité. On a tous envie de finir le championnat équitablement, voilà, pour qu'il y ait une réelle justice. Maintenant, quand on voit l'ampleur qu'a pris le virus, on se pose des questions. Et même si, je veux dire, la priorité, quand même, ouais, c'est vraiment un message que je veux passer, mais nous, la priorité, c'est la santé de tout le monde qui est d'abord la priorité. Après, c'est vrai qu'après, on discute un petit peu de ce qui peut se passer autour de cet événement-là et puis de savoir comment on va pouvoir rebondir. Mais tout va dépendre des dates de reprise.
Olivier,
on se pose beaucoup la question de savoir ce que font les joueurs de leur journée. En plus, là, le confinement a démarré à midi en France. Qu'est-ce que ça fait un entraîneur pendant ces journées?
Moi, je sais, Olivier, je peux répondre à ta place. Ouais. Pour Brendan Chardonnay, au moins, j'ai eu des messages et il a couru aujourd'hui. Il a fait du tennis et il a couru. C'est bon.
C'est bien, c'est déjà ça. Le programme qu'on a mis en place. Ouais. Alors,
c'est déjà ça. C'est quoi le programme? C'est quoi le programme d'ailleurs, coach?
Des coachs, enfin de moi, déjà d'être en relation avec tout le staff. On s'est eu au téléphone. Bon, hier, on avait une petite réunion pour prévoir un petit peu ce qu'on allait faire avec les joueurs, notamment une programmation sur les 15 prochains jours. Donc, on a envoyé la programmation ce matin avec un travail physique, parce que bon, aujourd'hui, les garçons peuvent sortir. Puis après, un travail à la maison, avec le gainage, etc., la musculation. Donc, et on a mis un système aussi de
de notation, en fait, on est en relation avec eux pour nous dire si les séances leur conviennent, à quel niveau ils sont. Donc, on fait une grosse confiance aux joueurs et pour qu'il y ait un retour. Donc, on garde le contact avec eux. Donc, pour revenir à mon emploi du temps, bon, ben déjà avec le staff, on a mis ça en place. Et puis après, on se projette déjà un peu sur la saison d'après parce qu'on a beaucoup de vidéos. Déjà, prévoir notre recrutement éventuellement. Donc, si on a des joueurs que l'on suit, on les regarde avec la vidéo. Sauf que c'est pratique aujourd'hui. Sur mon ordinateur, on a des logiciels qui sont perfectionnés pour tous les matchs qui sont filmés dans le monde. Donc, ça peut nous occuper pas mal la journée. Et puis, moi-même, Brendan est sorti faire un footing. Moi aussi, je suis pas sorti faire un footing parce que c'est beau en Bretagne aujourd'hui.
Ouais. Mais la chance que vous avez, c'est que les liaisons téléphoniques sont compliquées. Donc, les agents comme Pierre Ducrot vont pas vous harceler, quoi. C'est ça.
Il reste les mails.
C'est ça que j'allais dire. On aurait aimé rester un petit peu plus avec Olivier, mais la ligne est trop compliquée. Mais je peux vous le dire. J'ai croisé Olivier Dalloglio il y a quelques semaines dans un restaurant. Je pense qu'il court beaucoup parce qu'il est vraiment très fit. Hein.
Il est vraiment très fit.
Hein.
Plus que Pierre Ducrot.
Merci. Et plus que moi aussi. Merci beaucoup, Olivier.
Avec plaisir.
On suivra bien évidemment la reprise du Stade Brestois et on vous passera quelques coups de fil dans les prochaines journées. Bon courage à vous au Stade Brestois.
Il est 20h30. Une sur AMC. On remercie Olivier Dalloglio d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Allo Breaking. Vous venez poser vos questions à Mohamed et à Pierre et on reviendra sur la polémique du week-end entre les présidents lyonnais et marseillais, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault. À tout de suite.